ces moments. Avant de commencer, on va demander la grâce de Dieu. Seigneur notre Dieu, j'ai vraiment besoin de toi pour ta parole, que tu me conduises dans cette parole, Seigneur, que je ne sois pas un obstacle ni un frein à la compréhension. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce et je te prie aussi pour chacun dans cette salle, que tu prépares les cœurs, Seigneur, que tu ouvres les cœurs, Seigneur, que tu illumines l'intelligence de nos cœurs, afin que nous puissions comprendre les merveilles de ta parole. Seigneur, bénis ces moments, nous te les remettons, ils sont à toi. Amen. Voilà, j'ai un message particulier pour toi, Teshina. Et puis, accessoirement, ce message pourrait peut-être servir à d'autres personnes. Je vous propose donc de lire un texte qui est bien connu dans le livre de Josué. C'est dans l'Ancien Testament. Josué, qui est le conducteur du peuple d'Israël dans la terre promise, c'est lui qui a pris la succession de Moïse. Pendant très longtemps, il a été l'assistant de Moïse. Il s'est formé en silence au pied de Moïse. Et le livre donc, qui porte son nom va démarrer sur ces paroles que l'on va lire. Donc, je vais lire dans la version La Colombe, vous pouvez suivre dans vos Bibles. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Noun, assistant de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, traverse le Jourdain que voici, toi et tout ce peuple, en direction du pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. » Vos frontières s'étendront depuis le désert et le Liban que voici jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hittites et jusqu'à la grande mer au soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie, je suis avec toi comme je l'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, car c'est grâce à toi que ce peuple héritera du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Seulement, fortifie-toi et bon courage en observant et en mettant en pratique toute la loi que t'a prescrite Moïse, mon serviteur. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir partout où tu iras. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu y méditeras jour et nuit. Notez bien, il n'est pas dit, tu le liras jour et nuit. Il est dit, tu y méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Voilà, donc ce passage est une recommandation, une série de recommandations à quelqu'un qui vit une transition importante. Josué prend la succession de Moïse. Ce n'est pas une mince affaire de prendre la succession de Moïse, si on voit la place que prend Moïse dans la Bible. Josué, il doit être tout tremblant de peur. C'est pour ça que ce chapitre commence de cette manière. Et c'est peut-être le cas de Teshina. Elle démarre la vie chrétienne, elle se dit « comment va être ma vie chrétienne ?» Alors pour des gens un peu plus âgés, avec des cheveux blancs comme moi, qui ont quelques années de vie chrétienne, et d'autres se reconnaîtront aussi, vous savez que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie rose, facile, toujours, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Et c'est pour ça que dans ce texte, il y a trois points que je voudrais souligner pour que Dieu donc, donne directement à Josué et qui peuvent servir pour quelqu'un qui démarre sa vie chrétienne comme Teshina. Première chose à noter, Moïse, mon serviteur, est mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le passé est passé. Ça veut dire que tout ce que Teshina a fait dans le passé, de bien ou de mal, alors surtout de mal, le péché, on a dit le péché t'est pardonné. C'est pas la peine de revenir dessus. Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Le sang de Jésus-Christ pardonne notre péché définitivement. Il n'y a pas besoin d'y revenir. Il faut savoir qu'on a un adversaire, le diable, qui va éprouver un malin plaisir à nous rappeler nos fautes. « Ah, tu te souviens, ça et ça ? Oh ouais, mais d'accord, c'est pas un petit truc que tu as fait. » Vous voyez ? Eh bien non, le passé est terminé. On l'a cité, ce verset 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. D'accord ? Donc Moïse, mon serviteur, est mort. Première recommandation. Deuxième recommandation, prends courage. Vous avez vu le nombre de fois, fortifie-toi et prends courage, aie bon courage, sans arrêt, c'est répété. Vous savez que dans la Bible, quand il y a une répétition, c'est que c'est important. La vie chrétienne, comme on l'a dit, elle est exaltante, mais elle est semée d'embûches. C'est pour ça que Dieu répète à Josué, aie bon courage. Et il lui assure pour cela sa présence. L'Éternel sera avec toi partout où tu iras. D'accord ? Nul ne tiendra avec toi. Je suis avec toi. Je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Je suis avec toi comme je l'ai été à Moïse. Comme je l'ai été avec Moïse. Ça veut dire que Dieu, on peut prendre exemple sur tout ce que Dieu a fait dans le passé pour se dire si Dieu il a fait ça pour Moïse, pour Josué, pour David, pour Salomon, etc., eh bien, il le fera pour moi parce que ce Dieu ne change pas. D'accord ? Donc prends courage. C'est la deuxième exhortation. La troisième exhortation, sur laquelle je vais m'arrêter un peu plus longuement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, le verset 8, le livre de la loi. Alors, le livre de la loi, c'est la Torah. La Torah, ce n'est pas la loi, parce que quand on pense à la loi, on pense à des règles et tout ça. En fait, le mot Torah en hébreu signifie réellement l'enseignement. C'est-à-dire que cet enseignement ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour mener à bien tes initiatives en t'appuyant sur ce Dieu qui est avec toi, pour réussir le plan que Dieu a pour ta vie, Teshina. Dieu a un plan pour ta vie et si tu t'appuies sur ce livre de la loi, si tu le médites, eh bien, tu pourras réussir le plan de Dieu pour ta vie, tu pourras réussir ta vie. Il y a une grande différence entre réussir dans la vie, hein, comme le président Sarkozy disait, si tu n'as pas ta Rolex à 40 ans, tu n'as pas réussi ta vie. Non. Ce que la Bible dit, c'est réussir sa vie, c'est accomplir le plan de Dieu. Et j'aimerais ce matin insister sur le mot « méditer ». C'est quoi méditer ? Et je vous propose pour ça de voir d'une part quel est l'intérêt sous-jacent de méditer. Ensuite, on va voir en pratique, hein, parce que la Bible, c'est quelque chose de concret, c'est pas de la théorie. Comment méditer ? On verra quels sont les bénéfices qu'on peut tirer de la méditation de la parole de Dieu. Et puis, je terminerai par deux applications. Voilà ce que je vous propose comme plan. Le message ne va pas être trop long, ne vous inquiétez pas. On va être assez bref et assez concret. D'accord ? Alors, premier élément, l'intérêt sous-jacent. Pourquoi méditer ? Eh bien, méditer la parole pour renouveler mon intelligence, renouveler ce que j'ai dans la tête, renouveler mes pensées. L'apôtre Paul nous exhorte dans le livre des Romains à renouveler notre intelligence. D'accord ? Il ne s'agit pas de lire la parole de Dieu pour capter une information. On pense souvent que lire, c'est capter une information. D'accord, je vais comprendre que Moïse a fait ci, a fait ça. Ça, je comprends avec ma tête. D'accord ? Éventuellement, si je joue à Ischus le dimanche, eh ben, je peux répondre à des questions, et puis je prouve que je suis bon, que je connais l'information de la Bible. Mais ce n'est pas ça que Dieu veut. Ce n'est pas connaître l'information qui est important. Il faut savoir que l'information qui est contenue dans la Bible, elle ne transforme pas. Elle ne change pas le comportement. D'accord ? Pourquoi est-ce qu'elle ne change pas le comportement ? Ben, tout simplement parce que très souvent, je sais ce qu'il faut faire. Combien d'entre nous, je ne vous demande pas de lever la main, mais posez-vous la question. Combien d'entre vous savent qu'il faut lire la Bible ? On encourage tous les dimanches à lire la Bible. Combien d'entre vous savent qu'il faut lire la Bible ? Mais est-ce que vous la lisez tous les jours, par exemple ? Je sais ce qu'il faut faire, mais souvent je fais le contraire. Parce que ça fait partie de la nature humaine. L'apôtre Paul, vous voyez, dans le livre des Romains, qui a été cité tout à l'heure, il le dit, ce paradoxe, finalement, je fais le bien que je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. Il y a quelque chose qui se passe en moi. Je n'ai pas le temps de le développer aujourd'hui, ce sera l'objet d'un autre message. Mais je sais ce qu'il faut faire, mais je fais le contraire. Parce qu'intellectuellement, ça ne suffit pas, ça ne transforme pas. Pourquoi est-ce que ça ne transforme pas ? Alors, Là aussi, je n'ai pas le temps de m'étendre, mais vous savez que les neurosciences, depuis quelques années, ont fait des grands progrès et on commence à connaître des choses sur le fonctionnement du cerveau. Et on sait notamment que notre comportement, la manière, tout ce qu'on fait tous les jours, provient à 95% d'habitudes qui sont inconsciemment acquises. Regardez quand vous conduisez, vous faites une foule de gestes sans y penser. Vous n'avez pas besoin de votre intelligence parce que c'est dans votre subconscient, c'est déjà câblé. Il y a des chemins qui sont tracés quelque part et ce sont des habitudes inconscientes qui ont été acquises au cours du temps par la répétition. Quand j'apprends à conduire, je passe mes vitesses, tout ça, au début ça grince un peu, je me trompe, je passe en cinquième d'un coup et puis progressivement, ben voilà, je sais faire, puis après j'y pense plus. Donc ces habitudes ont été acquises par la répétition. Pourquoi ? Parce que la répétition crée dans le cerveau ce qu'on appelle des chemins neuronaux. C'est-à-dire, je répète plusieurs fois et mon cerveau enregistre cette information. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité, hein, que le neuroscientifique appelle la neuroplasticité. Ça, c'est important qu'on comprenne. Jusqu'aux années 60, on pensait que le cerveau était figé, que tout était acquis. Et puis, on a appris ça dans nos cours, alors ça s'appelait science naturelle de mon temps, hein, que le cerveau, il avait un stock de neurones, et à partir de 20 ans, ça se détruisait un peu. Vous savez, comme les jeux là où j'abats là, tous les bonshommes qui se présentent, et puis au bout d'un moment, à 60 ans, il n'y a plus de neurones, hop, on n'est pas des directs. Non, le cerveau, il est neuroplastique, c'est-à-dire que toute la vie se transforme. Ça veut dire que je peux apprendre même à 60, à 70, à 80. Le cerveau se modifie sans cesse, on peut créer des chemins neuronaux et on peut en détruire pour en recréer des nouveaux. Et tout ça, ce n'est pas une décision intelligente, c'est la répétition. D'accord ? Retenez bien ça. Donc la méditation, c'est réellement la répétition successive de vérités bibliques que je lis dans la parole, qui à un moment donné vont descendre dans mon cœur. Je lis une information, c'est dans ma tête. Il faut que ça descende au cœur, il faut que je le répète, il faut que je le comprenne, il faut qu'elle fasse un trajet en moi. Vous voyez, le chemin, il n'est pas très long, de la tête au cœur. Mais il faut du temps, il faut de la répétition. Et méditer la parole de Dieu fait passer la parole d'un accord intellectuel. Je lis un truc, ah oui, ça c'est vrai. Ça c'est un accord intellectuel, je suis d'accord avec ça. Mais le but, c'est que ça descende au cœur, pour que ça devienne une conviction interne dans mon subconscient, pour que cette parole puisse prendre racine en moi. L'apôtre Paul dira « Soyez enracinés et fondés en Christ », pour que cette parole devienne vraie dans mon cœur. Parce que si elle devient vraie dans mon cœur, il y aura des circonstances défavorables dans la vie qui vont m'ébranler, qui vont me secouer. Mais cette parole va... parce qu'elle sera ancrée dans mon cœur, elle va prendre le dessus. Je vais vous donner un exemple simple. Ça ne vous concerne sûrement pas, mais si vous avez des pensées négatives ou anxiogènes, vous avez peur de quelque chose, par exemple, vous avez une heure de trajet dans la voiture et vous mettez France Info ou une chaîne d'info continue. Puis vous entendez des bonnes nouvelles, des bombes par-ci, des drones détruits, des accords de paix qui sont volés en éclats, etc. Donc, vous commencez à avoir des pensées anxiogènes. Si vous essayez de ne pas y penser toutes vos forces, ça ne va pas marcher. Parce que le cerveau, il ne retient pas ce qui est négatif. Mais si je remplace ces pensées négatives et anxiogènes par quelque chose de positif, d'autres choses, notamment la parole de Dieu, par exemple, fortifie-toi et prends courage. Vous voyez, en ce moment, moi, ces derniers temps, j'ai été très stressé, anxieux par la situation autour de nous. Je me dis, on vit dans une ville extrêmement dangereuse. Lyon est classée dans les villes les plus dangereuses en Europe. Moi, j'habite juste à la banlieue Bronvaux-en-Velin. Je fais mes courses Carrefour, Auchan, etc. Je me dis, mais je peux me prendre un coup de couteau. Et ça, c'est des pensées anxiogènes. Mais si je lis la parole de Dieu et je lis Josué, « Fortifie-toi et prends courage, je serai avec toi ». Récemment, je méditais le psaume 91. « Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. » Si c'est vérité devient une vérité dans mon cœur, elle vient remplacer ces pensées anxiogènes. Et donc, je peux aller faire mes courses à Carrefour ou à Auchan, à Vénissieux, et je me dis, mais si 1000 tombent à ton côté, alors il ne faut pas provoquer le Seigneur. Je ne vais pas aller à minuit dans des quartiers un peu douteux, d'accord ? Mais vous comprenez le principe. Donc, je suis l'objet de mes pensées. Alors, méditer, ça veut dire quoi ? Bien, méditer, ça vient du verbe hébreu, d'accord ? Qui signifie littéralement, alors ce n'est pas traduisible directement, c'est traduit par méditer, mais derrière, vous savez, les mots hébreux sont formés de racines, de trois lettres souvent, et ils sont déclinés en fait. Quand vous regardez des textes hébreux, vous voyez que vous avez tout un tas de déclinaisons de mots, un peu comme dans la langue allemande. Vous savez, en allemand, on accole plein de mots ensemble. Ça fait des mots à rallonge, mais c'est un peu comme ça. C'est-à-dire qu'au départ, il y a une racine hébraïque, et puis il y a des tas de dérivés. Et ben, le mot méditer, ça signifie littéralement prononcer, d'accord ? Prononcer, grogner, grommeler, soupirer, dire quelque chose. Je vous ai mis cette photo parce que vous avez vu des juifs, les juifs devant le mur des Lamentations, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont leur livre et ils méditent. Ça veut dire quoi ? Vous avez vu ? Sans arrêt, vous avez leurs lèvres qui bougent. Parce qu'ils prononcent des paroles. Ils grommellent, ils grognent, ils disent, ils soupirent. Ils font ce que dit la parole de Dieu. Parce que le mot méditer, il ne se retrouve pas que dans Josué 1,8. Il y en a plein partout ailleurs, ces mots. Donc ça veut dire penser à cette parole. La parler, la prononcer, la répéter, la digérer. Je vais vous donner un exemple qui vous aidera à vous souvenir. Hein, parce que tout ça, c'est du blabla. C'est la manière dont une vache va ruminer. Le processus de rumination, c'est quelque chose de magnifique que Dieu a créé. Une vache, en fait, comment elle fait au pré ? Quand elle est au pré, elle va commencer par arracher des touffes d'herbe à grande vitesse. Elle va stocker, elle a un estomac énorme qui s'appelle la panse, qui peut stocker 200 litres. D'accord ? Et elle va arracher à toute vitesse des grandes quantités d'herbe qu'elle va avaler directement. D'accord ? Elle va stocker ça dans son estomac, puis après, elle va aller se mettre un peu de côté, sous un arbre, au chaud, et puis elle va commencer à ruminer. Alors, la rumination, c'est quoi ? Alors, c'est là que c'est fantastique, la manière dont Dieu a créé. Parce qu'il va y avoir une contraction de cette partie de l'estomac qui va renvoyer des petits, ce qu'on appelle des bolus. C'est-à-dire, il y aura des petites boules d'herbe qui vont remonter l'œsophage, qui vont revenir dans la bouche, et puis la vache va commencer à mâchouiller. Elle va l'écraser parce que les molaires d'une vache sont très plates, d'accord ? C'est un peu comme une meule. Donc, elle va vraiment moudre, réduire en fine poussière toute cette herbe. Et puis, ça va durer un certain temps, et hop, elle va réavaler ce bolus. Mais ce bolus qui est avalé, il ne va pas retourner dans la grosse panse. Il y a un système de gouttière, de contraction. Il y a une gouttière qui se forme. Et hop, il y a un bypass. C'est-à-dire que le bolus, il va passer directement dans les autres estomacs. Il y a 4 estomacs chez la vache au total, dont la caillette qui est le dernier estomac. D'accord ? Puis après, cette herbe qui aura été digérée, c'est ce qui va faire des protéines. Parce que la vache, elle a des bactéries qui transforment justement les matières azotées en protéines. C'est comme ça qu'on mange des œufs, de la viande, etc. Et on tire des protéines de ça. C'est un mécanisme extraordinaire. Regardez sur YouTube, maintenant c'est bien expliqué. Et puis surtout, regardez, si vous avez l'occasion cet été, regardez une vache qui est tranquillement couchée. Puis regardez, parce que c'est un processus très cyclique. Ça dure à peu près, elle mâchouille pendant 2 minutes 30. Et hop, elle avale. Et puis, il se passe 20 secondes, après, hop, vous avez un autre bolus qui revient. Tac, 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 il y a des allers-retours. Ça dure des heures, parfois, parce que 50 kilos, il faut le digérer. Pourquoi je vous explique ça ? Vous en souviendrez, parce que méditer, c'est pas juste, OK, le matin, j'ai 2 minutes, allez, je lis un passage biblique, tac, 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 je me souviens même pas de ce que j'ai lu. Ah, mais j'ai lu ma Bible, super, je peux aller au travail. Non, il vaut mieux lire un verset et le méditer que lire tout un chapitre et puis rien retenir. Ou retenir ça intellectuellement. Alors, ce que je vous propose, parce que tout ça, c'est des belles paroles, eh bien, c'est de méditer ensemble un verset. Je vais méditer un verset avec vous. Je vais vous montrer comment je fais. Alors, c'est peut-être pas bien, vous allez me voir à la fin, vous allez me dire, moi je fais pas comme ça, et c'est ok, moi je fais comme ça. Donc je vais vous montrer comment je fais, ça vaut ce que ça vaut, hein, au moins j'ai le courage de le faire. Alors, comment est-ce qu'on va méditer ? Tout d'abord, il faut savoir que la méditation biblique, ça n'a rien à voir, hein, avec la méditation zen, d'accord, la méditation transcendantale où je vide mon cerveau, où je le remplis avec je ne sais quoi, je fais le vide autour de moi. Ça, c'est la méditation du monde. Il faut savoir que c'est très à la mode, la méditation aujourd'hui. Hein. Si vous dites, moi je médite la parole de Dieu, oh, mais moi aussi je médite tout ça, je médite Bouddha, je médite ci, je médite ça, ça n'a rien à voir. D'accord ? Alors moi je vous propose, on va méditer sur un verset. D'accord ? Comment méditer en pratique ? On va méditer sur le verset de Paul aux Philippiens, chapitre 1er, verset 6. Un verset. Donc, ce verset nous dit, « J'en suis fermement persuadé, c'est l'apôtre Paul qui parle, celui qui a commencé en vous son œuvre bonne, la poursuivra jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ. » Donc avant de méditer, je prie. Je demande au Seigneur, « Seigneur notre Dieu, aide-moi à comprendre cette parole. J'ai besoin de ton Saint-Esprit pour comprendre ce que tu as à me dire, pour que cette parole descende de ma tête jusqu'à mon cœur, qu'elle transforme ma vie, qu'elle devienne vérité en moi, qu'elle devienne réelle. » Voilà. On demande au Saint-Esprit de venir nous aider à éclairer cette parole. C'est ce que Paul dit à Éphésiens. Paul prie pour les Éphésiens afin que Dieu illumine l'intelligence de votre esprit, de votre cœur, voilà, c'est le cœur qui a besoin d'être éclairé. Alors je vais commencer à méditer. Je prends le premier mot, j'en suis fermement persuadé. Ça, c'est le grand apôtre Paul qui affirme quelque chose avec grande conviction. Il y a le mot fermement, donc il en est très convaincu. Puis, bon, c'est quand même l'apôtre Paul, punaise, il a écrit la moitié quasiment du Nouveau Testament. Il est digne d'être cru. Donc même si je doute, je peux quand même lui faire confiance à l'apôtre Paul. Celui qui a commencé, celui c'est qui ? C'est Jésus-Christ, ouais. D'accord, donc Jésus-Christ, il m'a sauvé, c'est vrai, mais il ne m'a pas juste sauvé. Il ne me laisse pas tomber. Jésus-Christ travaille en moi. Et il a commencé quoi ? Il a commencé son œuvre bonne. Ah, d'accord. Il a une œuvre pour moi. Il m'a assigné une tâche. Il m'a donné des actions à faire dans la vie. Et puis, c'est son œuvre bonne. Tiens, il y a l'adjectif là. C'est son œuvre bonne. Et puis, cette œuvre, elle est bonne. C'est pas n'importe quoi. Elle est bonne, cette œuvre. Mais ça veut dire que ma vie, elle n'est pas vaine. Je n'erre pas dans la vie sans but. Hein ? Il ne m'a pas juste sauvé, puis maintenant débrouille-toi parce qu'il faut que j'aille en sauver d'autres. Non, il est là tous les jours. Il a prévu quelque chose pour moi. Putain, c'est fantastique ça. Et puis celui qui a commencé en moi, d'accord ? Mais Jésus s'intéresse à moi. Mais il y a plein de gens qui ne s'intéressent pas à moi. Les gens que je rencontre au travail et tout, ils s'en fichent complètement. Quand je suis dans la détresse, quand je pleure, quand je suis triste, les gens s'intéressent. Mais Jésus s'intéresse en moi, il s'intéresse à moi, il a fait une œuvre en moi. Puis non seulement il s'intéresse à moi, mais après, il y a le mot poursuivre. Ça veut dire qu'il continue. Ça veut dire que ce n'est pas juste commencer. Il la poursuit. Ce n'est pas que pour maintenant, mais c'est pour dans le futur. Dans ma vie, moi, j'ai été trahi plein de fois. Mais Jésus, il ne me trahit pas. Lui, il persévère en moi. Il va aller jusqu'au bout. Il poursuivra. Bah, est-ce qu'il va poursuivre assez longtemps ? Jusqu'à quand ? Mais il va la poursuivre jusqu'au jour de Jésus-Christ. Alors, jour de Jésus-Christ, c'est quoi le jour de Jésus-Christ ? Alors, le jour de Jésus-Christ, bon, il faut peut-être que je fasse un peu de recherche, mais j'ai quand même l'impression que c'est le jour où Jésus reviendra. Il reviendra pour juger. C'est peut-être les temps de la fin. Il reviendra me prendre. Oui, c'est vrai, la Bible, je me souviens, oui. La Bible nous dit que Jésus viendra nous chercher. Donc, c'est le jour où Jésus reviendra, il restaurera son règne et tout ça. Donc, ça veut dire que dès maintenant, jusqu'au jour où Jésus revient, il va continuer cette œuvre. Et puis c'est quoi cette œuvre qu'il a commencé en moi ? Là, peut-être, il faut que je comprenne un peu mieux. Là, il faut que j'explore, parce que ça ne me vient pas à l'esprit. C'est quoi l'œuvre ? Peut-être faut que je demande à un ancien qui m'explique c'est quoi l'œuvre que Jésus a commencée. Voilà. Voilà, par exemple, comment je vais méditer sur un verset. Vous pouvez le faire différemment. Mais je m'interroge sur tous les mots, je regarde, etc. Et puis, quand je prépare des messages, je ne fais pas différemment. Alors souvent, moi, j'apprends quand il y a 2-3 versets, 5 versets, 10 versets. Ça, je l'apprends tout par cœur. Parce que comme ça, ça revient. Et puis, des semaines avant, je médite. Des fois, je me réveille la nuit, je ne me rendors pas. Quand on est vieux, vous savez, on a un sommeil un peu plus léger. Enfin, vous savez de quoi je parle. Donc, voilà, j'ai des versets qui me reviennent. Parce que Jésus a dit, le Saint-Esprit que mon Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses, vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Mais le Saint-Esprit peut rappeler que ce qui est dedans. Voilà, donc, méditer la parole de Dieu. Donc, je vais prendre le verset, je vais le répéter lentement. Je vais répéter certains mots. Si j'ai un doute qui vient, je répète quand même. Si j'en suis pas sûr, je répète. Parce que plus je répète, plus je crée un chemin neuronal. D'accord ? C'est des neurones, il y a un passage. D'accord ? Et puis si je ne sais pas, ben je note. Là, il y a un point d'interrogation, je demande à quelqu'un qui est plus âgé dans la foi de m'expliquer. Alors ça produit quoi la méditation ? Alors de la même façon, on a vu que la rumination prépare le petit bolus d'herbe pour qu'il soit ultérieurement transformé en protéines. Donc c'est un effet qui est positif, qui est noble. C'est grâce à ça qu'on mange des protéines. Eh bien la méditation, progressivement, va changer mon esprit. Tout d'abord, cette parole va pénétrer dans mon cœur. Et ma croyance va commencer à changer. Par exemple, je me croyais nul, je me croyais inutile, et je commence à réaliser que j'ai une grande valeur. Que Jésus s'intéresse à moi, qu'il a commencé quelque chose, et qu'il va l'achever, il va persévérer. Il y en a plein qui m'ont trahi, mais lui ne me trahira pas, il va persévérer. Vous savez, notre vie, elle est façonnée par des croyances, qui sont souvent des croyances limitantes. Par exemple, si j'ai eu dans ma vie des échecs que je n'ai pas traités de la bonne manière, parce que la gestion de l'échec, c'est un des éléments clés de la vie chrétienne. Et en général, les gens ne savent pas faire, parce que, voilà, ce n'est pas facile. Donc si j'ai eu des échecs qui n'ont pas été traités, ma croyance va devenir que je serai incapable de faire quelque chose et de réussir dans le futur. Si mes parents, quand j'étais tout petit, m'ont dit « mais toi, t'es nul, tu ne feras jamais rien de ta vie », ça arrive. Moi, j'ai eu des clients qui se sont entendus dire ça, et ils sont chefs d'entreprise maintenant, et puis ils font bonne figure devant leurs salariés, et dans le fond de leur cœur, ils ont ça. Et vous savez, Einstein a dit que... C'est plus facile de dynamiter un atome que de dynamiter une croyance. Et dans tous les cas, si j'ai une croyance, c'est mon inconscient qui automatiquement a intégré cette croyance. De la même façon que automatiquement je conduis ma voiture sans penser à tous les gestes, automatiquement j'ai des croyances qui sont ancrées en moi. Parce que l'inconscient n'apprend pas avec la logique ou la raison, il n'apprend pas avec de l'intellectuel. Il apprend par la répétition. Donc soit je me répète que je suis nul, soit je médite que Jésus a commencé en moi une œuvre bonne qui vaut la peine d'être vécue. Et ça, c'est une vérité qui doit s'ancrer dans mon cœur. Et quand je médite les Écritures de manière profonde et répétée, mais ça, il faut prendre du temps, c'est sûr. Encore une fois, je préfère un verset qui est bien médité, comme on l'a fait tout à l'heure. Vous voyez, ça a pris trop. 3-4 minutes, plutôt que lire un chapitre et rien comprendre et partir comme ça. C'est pas grave, Dieu, il nous juge pas aux pièces. Il va pas faire un pointage, ah bah tiens, t'as bien lu ta Bible aujourd'hui. Vous voyez, on a fait un plan de lecture, là, qu'on va reprendre début juin. Alors le plan de lecture, il est assez conséquent, mais si vous n'avez pas de temps pour le plan de lecture, c'est possible. Si vous avez bien, vous êtes sûr que vous n'avez pas de temps, hein, je ne vais pas vous juger sur votre emploi du temps, si vraiment vous avez peu de temps, il vaut mieux prendre un tout petit passage, bien le méditer, parce que vous allez sortir quelque chose. Et le vendredi, quand on partagera, vous sortirez le truc que Dieu vous aura parlé au travers de 2 ou 3 versets. On n'est pas légaliste. Même si on vous encourage à lire tel et tel passage, le but, ce n'est pas de lire, c'est que ça entre dans notre cœur, dans notre subconscient. Donc quand je médite les Écritures de manière profonde et répétée, mon inconscient va commencer à l'accepter comme une vérité. Et quand ma croyance va changer, mon cœur aussi se met à croire. Et petit à petit, mon esprit change et ma vie commence à le refléter. Parce que quand je crois quelque chose, ça va se répercuter à l'extérieur. Jésus dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc ce que j'ai dans mon cœur, ça va ressortir à l'extérieur. Par mes paroles, par mes actions, par mon état d'esprit, mon expression faciale, la relation que j'ai avec les autres. Tout ça, ça vient de l'intérieur. Et Jésus a dit, c'est du cœur que sortent les mauvaises pensées, mais c'est du cœur que la bouche parle. Donc soit j'ai de l'abondance dans le cœur, ce que j'y ai mis dedans, la parole de Dieu qui devient une vérité, soit j'y mets des pensées anxiogènes, des pensées de vengeance, de non-pardon, etc., etc. Et la vérité commence à descendre dans mon cœur. C'est ça qui est important. Et ce qui devient de l'ordre de l'intention. Vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, intellectuellement, je sais ce qu'il faut faire, mais je n'arrive pas à le faire. Ça, c'est de l'intention. C'est pour ça qu'on insiste, pour les gens qui font le plan de lecture, on insiste sur qu'est-ce que vous allez changer. Et malheureusement, bien souvent, les gens viennent répéter, ils nous sortent une série de recommandations intellectuelles. Alors c'est bien, on est content, on a cité 15 points, hein, on donne 1 minute 30 et 15 points en 1 minute 30, mais on s'en fiche de ça. Parce que je préfère un point qui va changer mon cœur. Ça, j'ai réalisé que telle personne, là, ça fait des années que je dois lui pardonner, je ne l'ai pas pardonné. Il vaut mieux ça que citer toute une série de vérités qui sont justes, mais qui sont des vérités intellectuelles. Parce que ce qui est intention reste de l'ordre de l'intention. Par contre, ce qui devient une action, je note une action concrète. Cette semaine, je rencontre telle personne mercredi soir à 18h. D'habitude, je suis comme ça avec elle. Elle m'énerve, je lui fais la tête, et là, je vais changer parce que j'ai compris que Jésus-Christ m'aimait. Voilà. Il y a quelque chose qui se passe dans mon cœur. Le temps passe, il faut que j'avance. Quelques exemples de méditation. Je vais aller vite, il y a plein de méditations dans les psaumes. D'accord ? Je vais vous citer deux exemples qui sont vraiment parlants. Premier exemple, Marie. D'accord ? Il est dit, Marie gardait dans son cœur et repassait dans son cœur un certain nombre de choses. Elle avait entendu les paroles de l'ange, elle avait vu certaines scènes, l'eau changée en vin et tout. Et puis elle s'interroge, elle médite tout ça. Les paroles de Jésus, elle repasse dans son cœur. Ça, c'est méditer. Deuxième exemple, Nathanaël. Vous savez, au départ, l'appel des disciples, Jésus dit, voilà un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. Et Nathanaël, il est scotché. Pourquoi ? Parce qu'il était sous le figuier. Les figuiers orientaux, ils ont des branches qui tombent très bas, avec des grosses feuilles. Et on peut se mettre sous un figuier, être complètement caché. Et Nathanaël était là, il devait méditer les Écritures. Il devait peut-être se repentir sur certaines choses, parce que le texte lui parlait. Il devait demander pardon à Dieu, il y avait un dialogue avec Dieu. Et comme Jésus pénètre les pensées, Jésus connaissait les pensées de Nathanaël. Et quand il rencontre Nathanaël, il dit, écoute, il ne lui dit pas ça, mais en gros c'est ça, c'est quand tu étais là une demi-heure à parler à mon père, j'écoutais ce que tu disais et je peux te dire, tu es un Israélite qui n'a pas de fraude. Et l'autre, il est scotché, parce qu'il savait très bien ce qu'il disait à Dieu, il pensait qu'il était seul à le connaître. Et là, c'est pour ça qu'il tombe aux pieds de Jésus et lui dit, tu es le fils de Dieu. Il n'y a personne d'autre qui peut savoir ce que je pensais là sous le figuier. Et puis, il y a la mauvaise façon de méditer. Par exemple, je vous l'ai dit tout à l'heure, si on médite sur des pensées négatives qui tournent en boucle, ces pensées négatives vont devenir une réalité. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, lui encore, voyez, pour éviter que ses pensées négatives tombent en boucle, il écrira aux Philippiens qu'il aimait beaucoup que tout ce qui est vrai, honorable, noble, juste, pur, aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Donc la prochaine fois que vous écouterez France Info, où vous aurez des pensées d'angoisse, vous coupez France Info. Et puis vous méditez sur un verset que vous aurez peut-être appris par cœur. Et ça changera votre façon de voir la vie. Deux applications rapides. La lecture suivie de la parole, c'est ce qu'on fait ensemble. Donc je vous ai donné quelques trucs. Quand on reprendra au mois de juin, pensez à ça. Si vous n'avez pas le temps, je comprends. Il vaut mieux un verset, il vaut mieux un petit passage qui soit bien médité. Et avec les anciens, on voudrait vraiment vous encourager. Peut-être à chaque lecture quotidienne, essayez de vous dire quel est le verset le plus important que j'ai lu. Et puis prenez-le, écrivez-le sur un bout de papier, scotchez-le sur votre miroir de salle de bain. Et puis reméditez-le, repassez-le plusieurs fois dans votre cœur, comme je vous ai montré tout à l'heure. Deuxième application, il y a un grand lien pour moi, parce que je le vis depuis des années, entre méditation et mémorisation. Alors vous savez qu'il y a... Il y a quelques années, on avait lancé ce programme de mémorisation dans l'Église à partir du programme des navigateurs. C'est des petites cartes, vous savez. Il y avait pas mal de personnes qui ont adhéré à ça. Alors les gens se sont vite découragés quand même, parce que je pense qu'ils étaient tout seuls. Quand on est tout seul à mémoriser dans son coin, c'est pas facile. Bon. Et puis, pareil, il y a des croyances, hein. Il y a des gens qui disent « Ouais, mais moi, de toute façon, j'arrive pas à me souvenir, j'ai pas de mémoire, blablabla, blablabla. » Donc, j'ai pas eu le temps de vous démontrer la neuroplasticité, mais je ferai un message là-dessus. Et puis, je vous démontrerai qu'on peut mémoriser à n'importe quel âge. Vous voyez ? Et puis, la bonne nouvelle, c'est qu'avec la technologie, il existe maintenant des applications qui aident à mémoriser. Et moi, personnellement, j'ai repris ça il y a quelques semaines. Alors, c'est une application qui est en anglais, au moins les têtes de chapitre, mais les versets, on peut les mettre en français. Et j'aimerais lancer une invitation à quelques personnes motivées qui souhaiteraient suivre ce programme de mémorisation. En fait, les versets, ils sont libres. On rajoute des versets. L'intérêt de l'application, vous savez, c'est qu'il y a des rappels. Et puis, il y a un système très original qui permet de se réciter le verset. D'accord ? Donc je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais je fais un appel. Si certains sont intéressés pour rentrer dans ce programme, alors je ne parle pas des personnes qui veulent essayer et qui vont se décourager au bout de trois versets. C'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est quelqu'un qui veut vraiment mémoriser les Écritures. Parce que vous avez été touché aujourd'hui, peut-être, par la nécessité de méditer. Et c'est plus facile de méditer quand on connaît le verset par cœur. Donc, vous venez me voir à la fin du culte, d'accord ? On fera un petit groupe, je vous prendrai votre numéro de téléphone, on fera un groupe WhatsApp, et puis on aura une petite session Zoom, je vous expliquerai comment fonctionne cette application, elle est gratuite, enfin, il y a une version light qui est gratuite, et qui est largement suffisante pour le faire, on aura un groupe, on aura des versets communs à méditer, on se reverra régulièrement, voilà, on va faire ça, quelques personnes, donc très motivées, venez me voir à la fin du culte, c'est vraiment super, moi j'ai démarré il y a quelques semaines, là, et je prends un plaisir fou à faire ça. Et puis, du coup, je m'aperçois que Dieu me donne de la mémoire. Et moi, ça change ma vie. Je roule en voiture et tout, je repense à ces versets. C'est formidable. Voilà. Bon, je dis ça des personnes motivées, parce que c'est vrai que le premier programme qu'on avait fait, y a pas mal de gens qui s'étaient découragés. Mais je crois que le découragement vient du fait qu'on est tout seul. Donc, quand on est plusieurs, on s'encourage régulièrement. Et puis, vous verrez dans le programme, c'est très américain, vous avez des points, en fait. Et puis, il y a des rappels, ils vous donnent les pourcentages de connaissance de votre verset. Et puis, il y a des relances, parce que pour bien mémoriser un verset, eh bien, il faut le répéter plusieurs fois, à des intervalles réguliers, parce qu'il y a des cycles, et la mémoire fonctionne selon un cycle. Voilà. J'en dis pas plus. Ceux qui sont intéressés, venez me voir à la fin du culte. Pour conclure, je vous rappelle la loi de la méditation, c'est « je deviens ce que je médite ». C'est-à-dire, si je médite sur mes peurs, sur mes craintes, sur mes soucis, eh bien, je vais devenir quelqu'un de craintif, de peureux et d'anxieux. Mais si je médite sur la vérité de la parole, je deviens la personne que Jésus veut que je devienne. C'est-à-dire une personne en qui Jésus a commencé son œuvre bonne et qui l'achèvera. Le psaume 1 nous dit que la personne qui médite la loi de l'Éternel, jour et nuit, elle est heureuse. Donc si vous cherchez les secrets du bonheur, n'allez pas voir les psychologues, même s'ils peuvent être utiles, mais le secret du bonheur, c'est de méditer la parole de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. J'ai commencé par le livre de Josué, je vais terminer par lui. Après une vie de méditation et de service, une vie entière. Il a reçu un conseil au début de sa mission. Et on le revoit à la fin du livre de Josué. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de Josué, au chapitre 24. Hein, c'est presque le testament de Josué. Il est à la fin de sa vie. Et voilà ce qu'il va laisser aux Israélites. Voilà ce qu'il va leur dire. Josué, chapitre 24, versets 14 et 15. Voilà, il s'adresse au peuple. « Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. » Ôtez les dieux qui ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve en Égypte et servez l'Éternel. Et si vous ne pensez pas devoir servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué avait retenu la leçon. Et il a décidé que lui et sa maison allaient servir l'Éternel. Donc maintenant, c'est à chacun de choisir. Si vous voulez servir l'Éternel, méditez la parole de Dieu jour et nuit afin d'avoir de la réussite dans tout ce qu'on entreprendra. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va prier. Notre Dieu, merci encore pour cette parole. Merci parce que ce n'est pas juste des mots, ce n'est pas juste un livre, c'est une puissance. Et cette puissance est capable de briser n'importe quel cœur endurci, de faire sauter toutes ces croyances en nous. Elle est capable de pénétrer jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles, nous dit l'Épître aux Hébreux. Seigneur, merci de nous avoir laissé cette parole. Merci pour ta grandeur. Merci pour cette matinée, Seigneur, pour ces chants, pour cette joie, pour Tekina qui fait partie de la grande famille de Dieu. Merci vraiment pour ta bonté envers nous. Sois avec nous le reste de cette journée. Accompagne-nous dans nos entreprises, Seigneur, et aide-nous à te garder en ligne de mire, Seigneur, à penser constamment à toi. Amen.